R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Bon, c'est un défi, moi. Habituellement, j'ai une voix qui porte, mais je suis un peu grippé aujourd'hui. Mais au fil du chemin, je pense que j'ai pris du rhum au cas où vraiment ça va plus du tout. Alors déjà, je vais vous donner un petit avertissement. Il se trouve que malheureusement, je ne suis pas un scientifique. Et je sais que pas mal de gens ont suivi le scientifique, mais j'aurais pu être un scientifique. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu le scientifique que j'aurais pu être. Et du coup, mon travail maintenant, c'est que je raconte des histoires aux gens. Mais j'aurais pu en raconter d'autres, j'en raconte certaines. Et c'est lié à deux choses. Donc déjà, moi, j'ai fait des études de sciences assez sérieuses. Je suis polytechnicien, j'ai étudié les mathématiques. Et voilà, sur le plateau de Saclay, et arrivé donc sur le campus d'Orsay, j'ai eu envie de me spécialiser plutôt autour de la question de la biologie végétale. Et en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à des choses qui étaient connexes à la biologie végétale, et donc j'ai fini par arrêter en fait toute pratique scientifique pour me consacrer à des pratiques artistiques. Pour le meilleur et pour le pire. En fait, plus jeune, avant de rentrer à Polytechnique, j'ai fait sport-études. Donc j'aurais pu être footballeur, j'aurais pu être scientifique, et finalement, je travaille dans le domaine culturel, ce qui est quand même vraiment une espèce de descente progressive. C'est vraiment un vrai raté. Et ma mère, qui est encore vivante, m'a dit, quand j'avais 15 ans, tu peux pas faire footballeur parce que c'est pas un métier. Bon, aujourd'hui, quand on en reparle, elle fait pas la maline. Mais du coup, j'ai pas été scientifique non plus. Et pour une raison assez précise et à un moment assez précis. Je vais vous raconter plusieurs histoires sur le chemin. Il faut savoir que ma pratique du récit et de l'histoire vient d'une qualité particulière et puis d'un défaut un peu handicapant. Le défaut un peu handicapant, on va commencer par ça, c'est que je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais absolument aucun. C'est quelque chose comme ça qui ne s'explique pas. J'ai absolument aucune chose dans ma vie qui fait écho à ça, c'est une espèce d'objet complètement isolé. Si j'arrive quelque part, quand je ressors, je pars systématiquement à l'inverse de la direction que j'ai empruntée, mais quasiment systématiquement. Donc, ce que je fais, c'est que je mémorise des parcours, et je mémorise d'autant plus des parcours, c'est qu'en fait, quand j'étais enfant et adolescent, je souffrais d'hypermnésie, ce qui donne le titre de la performance aujourd'hui, je me rappelle de tout, c'est-à-dire je me rappelais de tout. Alors, c'est très drôle, l'hypermnésie, parce que du coup, quand on est à l'école, j'avais des très bons résultats en mathématiques, voilà, j'ai étudié toutes les pratiques d'équations différentielles, qui sont très, très faciles quand on a beaucoup de mémoire. J'ai commencé à faire de la programmation, et tout est très logique quand on se rappelle de tout. Simplement, en fait, se rappeler de tout, ça ne veut pas dire penser. C'est quelque chose qui donne l'impression et qui donne l'illusion à des gens qui vont être vos interlocuteurs, ou par exemple à un système scolaire, que vous êtes brillant, mais en fait, vous vous rappelez de tout, ce qui n'a rien à voir avec le fait de penser. Puisqu'on n'a pas besoin de retenir les liens logiques et donc de penser quand on se rappelle de tout. C'est comme si, par exemple, vous faisiez une interrogation et vous recopiez, en fait, le résultat dont vous vous rappelez. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas dedans. Donc, arrivé à un moment donné, ça va poser un problème, cette hypermnésie. Et puis, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé par la suite pour m'en défaire. Ce qui est un peu gênant, parce qu'avec l'âge, quand on vieillit, on regrette de ne pas se rappeler de tout. Et surtout quand on n'a pas de sens de l'orientation. Du coup, je me suis retrouvé sur le campus d'Orsay, qui est un campus, un vrai campus, c'est le seul d'Île-de-France qui a un vrai campus, c'est-à-dire que c'est un parc de plusieurs hectares, à préparer en fait une première présentation en biologie végétale, parce que c'est un parc qui est planté, qui est un parc qui n'est pas naturel. Et en fait, en visitant ce parc X fois pour faire ma présentation liminaire, auprès donc de mon enseignant référent de l'époque, qui s'appelait Pierre-Gilles Degène, qui est donc prix Nobel de chimie, qui est décédé aujourd'hui. J'ai passé des mois et des mois à ne pas réussir à le faire, et à la fin, il m'a dit, si vous n'êtes pas capable de faire la présentation liminaire, vous ne pourrez pas intégrer en fait, la série de cours pour un doctorat. Et en fait, ce qui me gênait, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne m'intéressais pas en fait, aux formes qui étaient dites naturelles. En fait, le fait que les choses aient été modifiées, ou que les choses n'étaient pas naturelles, me semblait un peu plus intéressant. Et donc j'ai fait une présentation liminaire pour un doctorat à l'époque, qui était sur tous les chemins que faisaient les étudiants pour raccourcir les chemins qui avaient été tracés naturellement. Donc j'ai repéré l'ensemble des chemins. Vous voyez, quand on marche sur une pelouse, il y a toujours un deuxième chemin qui se trace, et qui est le chemin qu'on emprunte parce qu'on prend un raccourci. Et à force de passer par ce chemin, il devient un nouveau chemin. Et j'avais à l'époque dessiné cette cartographie des chemins. C'était complètement hors sujet, et donc après j'ai arrêté. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement, c'est déjà beaucoup, une balade dans laquelle il s'agit de repérer dans ce qui est construit, ce qui va après être de nature anthropique, c'est-à-dire dans une ville, et moi les villes m'intéressent plus que les formes naturelles, il y a un ensemble de choix qui s'exercent, et dès lors que ces choix ne sont pas concertés, et Bagnolet est un endroit magnifique pour ça, on a l'impression que chacun a fait son truc sans absolument regarder ce que faisait l'autre. Et donc, à un moment donné, les choses en elles-mêmes existent, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les endroits où elles se touchent, puisqu'en fait, les endroits où elles se touchent, elles ne sont pas décidées. On a décidé de faire une maison et un immeuble, on a eu une inspiration années 70, années 50 et années 2000, mais finalement, la zone de contact entre ces inspirations, ces désirs, etc., c'est un endroit qui n'est pas décidé et qu'on essaie un petit peu de réparer, de redessiner. Dans les années 90, juste à la fin des années 90, dans les années 2000, quand j'ai commencé à travailler plus sérieusement dans le domaine de l'art, j'ai participé à une exposition qui s'appelait Mutation au CAPC de Bordeaux. Et c'était Rem Koolhaas qui était le curateur de l'exposition Mutation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait tout un travail, moi, qui m'a beaucoup inspiré jusqu'à aujourd'hui, de Giovanni Lavera, qui s'appelait Post-it City. Et pour lui, les Post-it City, c'était tous les éléments urbains de la ville qui sont fabriqués exactement comme on fait ici, à partir de l'agglomération de gens, et qui donc vont exister l'espace d'un instant et se disperser. La baraque à frites, le dealer au coin de la rue, sont des post-it cities, c'est-à-dire des éléments de ville qui vont générer de la ville, mais de la ville qui va sans cesse apparaître et disparaître. Cet endroit de la ville qui apparaît et qui disparaît, c'est mon intérêt dans la ville. Et je me suis dit, comme je n'arrivais pas à me repérer dans les villes à cause de problèmes d'orientation, j'ai essayé régulièrement de me repérer à partir des post-it cities. C'est-à-dire à partir en fait des endroits qui en réalité ne sont pas là en permanence. Et comme j'ai une meilleure mémoire qu'un centre d'orientation, je me repère à partir de choses que j'ai vues quelque part plutôt que de choses qui sont là en permanence. Voilà, ça c'était l'avertissement. On y va. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'avec les post-it cities, évidemment, le problème, il y a ceux qui se construisent de manière spontanée, anarchiste. Et puis après, l'inverse de vraiment un pur, bel objet de post-it city, c'est le skatepark. Le skatepark, c'est vraiment, en fait, la chose qui anéantit, en fait, ce que le skate lui-même a fabriqué. Si on part de l'idée même de Deleuze d'une striation de la ville, c'est-à-dire la ville est construite avec des directions, des sens, et le skate, c'est en général redessiner une ville en la striant, c'est-à-dire en la prenant en perpendiculaire. Faire du skate, c'est dessiner en perpendiculaire dans la ville. Quand on dessine des skateparks qui vont dans le sens de la ville, c'est des skateparks sans skateboard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'endroit pour faire du skate, mais il n'y a plus le skateboard. Le skateboard, c'est quelque chose qui est une pratique de dessin de ville. Ça laisse des traces dans la ville. Et moi, par exemple, les endroits où les gens font du skateboard, ça a été des endroits avec lesquels je me suis repéré dans la ville. Quelqu'un est passé ici en skate, c'est un repère plus fort que moi. Un skatepark, je rêverai jamais à le retrouver. Ça, c'est mon problème. Parce que le skatepark, il est organisé.
C'est pas post-it, quoi.
C'est pas post-it. Et c'est typiquement, en fait, un phénomène de la ville qui est un phénomène qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui était produit par les habitants dans leur pratique est progressivement réorganisé pour leur remettre à disposition. Exactement comme dans le même processus que des sorcières au Moyen-Âge. Ce qu'on appelle une sorcière au Moyen-Âge, ça va être une personne qui a le souci de se soigner avec des plantes qu'elle trouve à proximité, qui a le souci d'organiser une économie de vie indépendante. Le modèle qui va démarrer au Moyen-Âge, et ce qu'on va appeler aujourd'hui le capitalisme, va procéder de manière très simple. C'est qu'au fur et à mesure, on va vider les logis et les pratiques de base. Rappelez-vous qu'à une époque, on fabriquait ses vêtements, on fabriquait ses chaussures. On va donc extraire des pratiques vernaculaires, comme la pratique de se soigner. Et aujourd'hui, c'est très important parce qu'on le comprend bien aujourd'hui. On extrait donc un savoir se soigner à partir de ce qui est autour pour organiser et centraliser un soin, une médecine qu'on va vendre contre du travail. Donc quelque part, les sorcières, si on les brûle au Moyen-Âge, c'est d'abord parce qu'elles ne veulent pas travailler pour consommer ce qu'elles savent déjà faire. Et le skateur, c'est quand même celui qui normalement skate en dehors des skateparks. Puisqu'on ne va pas non plus lui interdire de skater la ville pour le faire skater dans un espace que la ville lui aura dédié. Il y a quelque chose comme ça, on a un processus. Et ça, c'est vraiment important. Les processus d'urbanisation aujourd'hui partent du principe que les gens veulent des services. Et ces services s'opposent la plupart du temps à des pratiques. Moins on a de pratiques, plus on a de services. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a plus tellement le droit de faire du feu en ville, sachant que le terme « en ville » est de plus en plus large, on doit aller acheter un barbecue électrique. Ça, on a le droit. On n'a pas le droit de fabriquer un barbecue électrique, je vous le dis. Non, mais c'est vrai. C'est assez important de savoir que le système des normes qui est là donc pour nous protéger, et qui est donc un système qui est assez largement incontestable, puisqu'en fait, si je dis j'ai créé une norme pour protéger la sécurité de votre enfant, j'ai protégé une norme pour protéger la sécurité de votre famille, de vos collègues, c'est relativement incontestable dans la démarche. Le problème, c'est que cette norme-là, elle produit l'incapacité à fabriquer ce qu'on a déjà. Par exemple, ce qui est en train de se passer sous l'échangeur est en fait globalement interdit. Et si on veut trouver des espaces dans la ville pour pouvoir reproduire des pratiques, il faut aller du côté de l'interdit, ce que moi j'appelle dans mon travail de manière un peu générique, le trafic. C'est-à-dire que la pratique du trafiquant, c'est un peu comme la pratique de la sorcière au Moyen-Âge. Donc on va utiliser le terme de trafiquant aujourd'hui de manière péjorative dans les pouvoirs publics, alors que trafiquer, c'est pratiquer la ville. Donc c'est comme, par exemple, mettre une chaise sur un trottoir pour s'asseoir, c'est trafiquer la ville. Parce qu'avant, on avait le droit, maintenant, on n'a plus le droit. On n'a pas le droit de mettre une chaise sur un trottoir, puisque les seuils des maisons n'appartiennent plus aux maisons, appartiennent à ce qu'on appelle l'espace public. C'était pour donner un... J'aime beaucoup cet endroit et j'ai accepté l'invitation à cause de ces baraques qui sont là depuis vraiment longtemps. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que la baraque à frites, et qui est un peu l'endroit qui pourrait être comme la maison ou le restaurant, etc., à ça de près, en fait, que c'est un véhicule avec des roues. Et en fait, ce qui fait l'intérêt principal, moi, je trouve, de la ville, c'est que la ville est fabriquée par le mouvement et pas tant fabriquée par ce qui est fixe. Et donc, quand des grands architectes pensent que c'est les bâtiments qu'on dépose dans la ville qui font la ville, en réalité, c'est les autobus qui font la ville. Moi, il se trouve que je n'ai pas de sens d'orientation, donc je ne conduis pas. Donc, je délègue, en fait, à des conducteurs de train, de bus, de métro, de m'emmener à l'endroit où ils m'ont promis de m'emmener. Et normalement, si tout se passe bien, j'y arrive. Le bus, en fait, a fabriqué beaucoup plus largement qu'autre chose ce qu'on appelle de manière relativement vague les cultures urbaines. Puisqu'en fait, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de cultures urbaines. La construction de la ville telle qu'elle nous est servie aujourd'hui, c'est la construction des villages. La problématique en fait qu'on a en Île-de-France, c'est qu'à tous les niveaux, même au niveau de l'Île-de-France, on est en train de considérer que des gens veulent vivre dans des villages. Moi, concrètement, il n'y a rien de pire que de vivre dans un village français. C'est la pire punition qu'on pourrait me... Et quelque part, la ville, ce n'est pas un village, parce que la ville, c'est d'abord fabriqué par un mouvement, par des travelling et par un espace-temps, comme la musique des cultures urbaines, et si on cite par exemple le rap, est fabriquée par le principe qu'il y a un mouvement et même un véhicule spatio-temporel que vous connaissez tous, qui s'appelle la platine. On va en reparler après.
Pendant 20 minutes, le mec va se bouer comme une patate.
J'avais un peu parlé des inspirations années 70. Alors, c'est chouette, parce qu'il y a des matériaux comme ça, notamment les vitres fumées, qui devaient être des choses extrêmement excitantes à une époque où, dans des bureaux d'études, on avait droit de consommer des drogues pour travailler. Et le problème de l'architecture par rapport à d'autres types d'actions humaines, c'est que c'est quelque chose qui reste. Et donc, des idées, des inspirations d'une époque laissent certaines traces, quand même. Et un exemple de post-it city qui est vraiment beau, c'est ce type de jardin. Donc une forme de botanique urbaine. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un jardin comme ça, au tout début, vous savez en fait qu'en France, il y a un principe quand on rentre dans une ville, la première qualité qu'on mesure, au moins quand on a plus de 70 ans, c'est le nombre de petites fleurs qui sont adossées à la ville. Hein. Ville fleurie, donc dans le sud de la France, ils sont souvent entre 3 et 4 fleurs en permanence. Les ronds-points sont fleuris. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce principe du fleurissement, qui est donc encore une fois un service et pas une pratique, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que les gens peuvent avoir envie de mettre des essences végétales dans la ville, on considère qu'ils ont envie de voir des plantes. Et alors, on se transporte dans leur désir, on décide pour eux les plantes qu'ils ont envie de voir. Alors ça, c'est le premier geste, c'est le geste de fleurissement. Et c'est vrai que c'est un geste qui est quand même à la recherche des petites fleurs qu'on va accoler au nom de la ville. Et alors j'avoue que le processus de mise en place des fleurs, je ne le connais pas en fait. Hein. Je ne sais pas qui vient dans une ville de manière un peu incognito, fait des photos, repère. Est-ce que c'est fait par Google Maps avec un rapport, avec un algorithme qui mesure le nombre de fleurs au mètre carré et qui attribue donc directement des fleurs. Ça, c'est une chose qu'il faudrait que je vérifie, hein, je ne sais pas. Toujours est-il que ce qui est assez beau dans ce fleurissement, c'est quand il y a un accident, c'est-à-dire que quand, par exemple, on met des travaux, et donc d'autres types de nécessités viennent le réorganiser. On vient poser, vous voyez, ils ont posé le pied, ils ont posé le pied des barrières, Donc, quelque part, ça crée un moment, en fait, chaotique qui, vraiment, là, est un moment où on peut le contempler. Parce que là, on n'est plus dans un jardin zen, on est vraiment dans un espèce de jardin anthropique où on a envie de s'arrêter un peu, voilà. Et où, en réalité, on n'a pas le droit de s'arrêter. Là, on le fait aujourd'hui, mais on n'a en général pas le droit de s'arrêter. Quand on s'arrête trop longtemps dans une ville pour observer les effets d'entropie de la ville, on a souvent affaire à la police. Donc après, je vous donner un peu des éléments pour que vous puissiez répondre à la police par rapport effectivement à l'organisation anthropique de la ville. Si à un moment donné, un agent de police vient vous interpeller et qui vous demande en vous tutoyant ce que vous faites là, ou s'il ne vous tutoie pas, c'est de la chance, mais en tout cas, s'il vous tutoie, vous pouvez dire j'observe notre ville à 3 fleurs et l'un des aspects de cette ville-là, c'est sa dimension anthropique. Vous voyez, après, moi, quand on dépose une palette, regardez, la palette posée sur le... Plus, moi, ça commence à être quelque chose vraiment de pas mal. Et ça, ces moments-là, qui sont quand même très, très précieux, il faut surveiller, parce que les ouvriers, des fois, ils viennent comme ça et ils dérangent tout. L'ouvrier va dire, il prend la palette, il faut savoir l'arrêter, il faut lui dire, la palette, il faut la laisser. Enfin, vous laissez la palette là et tout. Ça ne va pas durer, donc plus tard, ils vont vraiment faire quelque chose qui va vraiment être fleuri en se projetant dans vos désirs. Là, ce qui est assez beau, c'est qu'on se projette dans les désirs de personne. Ça va se fabriquer et peut-être avec un peu de chance, ça va même évoluer avec d'autres essences. Parce que pour un peu, si les ouvriers viennent de pays lointains et transportent comme toute personne qui vient d'un pays lointain avec lui ou elle des graines, il y a des chances en fait que des essences maliennes, des essences des plateaux d'Algérie viennent pousser là, puisque vous savez par exemple que lorsqu'on cultive du miel en Île-de-France, quand il est analysé, la plupart du temps il est attribué soit à l'Afrique, soit à l'Amérique latine. C'est pas une blague. Le miel francilien est en général classé entre Afrique et Amérique latine. Parfois ils disent peut-être un mail africain ou alors peut-être Algérie, comme ça. Et les mails cultivés en Seine-Saint-Denis sont classés dans les mails algériens. C'est une catégorie un peu générale. C'est pas rien parce que c'est lié aux essences que vont cultiver de manière domestique les gens qui habitent dans le département, plus toutes les graines qu'ils transportent dans des voyages aller-retour entre des pays d'origine et la France, et donc qui vont être butinés par les abeilles. Alors c'est vrai que voilà, on pourrait aussi imaginer des miels anthropiques, c'est-à-dire ça, mettre des fleurissements un peu en ville au milieu de barres métalliques, de palettes, etc., pour voir quel type de miel on obtiendrait. C'est quelque chose d'un peu nouveau. Et voilà, ça, c'était une idée que j'ai eue en venant, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Là, c'est des éléments pour regarder. En tout cas, je trouve qu'ici, c'est assez réussi. Alors, l'intérêt des villes qui sont en chantier permanent, c'est qu'en fait, on ne se rappelle plus en fait, de la chose qui était en train d'être commencée, parce qu'il y a un autre truc qui se remet en chantier par-dessus. Et du coup, il y a une espèce d'effet comme ça, d'oubli, qui, moi, me plaît bien, parce que, comme je vous disais, je me repère essentiellement aux choses qui sont éphémères. Et quand cet éphémère commence à durer, moi, je suis assis dans le confort, comme ça. Alors, On va pas aller par ici, c'est bien dommage, mais vous savez comme moi, tout ce bloc-là qui mène au Mercurial est quand même un pur chef-d'œuvre, quoi. C'est quelque chose de... Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, et essayez d'y penser, à quel moment dans votre vie, je veux dire avec une échelle assez signifiante, à quel moment dans votre vie, avec des moyens assez conséquents, vous êtes autorisé à faire n'importe quoi? Et ça, c'est super, parce que... Voilà, alors... Parce que au moins, ça me rassure, parce que je me dis, bon, si à chaque fois qu'on a un peu de budget, si à chaque fois qu'on a un peu de temps, si à chaque fois qu'on a un peu d'espace de pensée, on est obligé, presque moralement, d'avoir une inspiration juste, de travailler sérieusement, de se référer à ce qui existe, d'étudier les accidents du passé pour ne pas les reproduire, ça va standardiser la ville. Et Bagnolet, ça résiste à ça. Hein. Voilà. Je vous laisse... Alors, en termes de Post-it City, je voulais que vous regardiez par ici. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, on a un projet, donc là, qui a été réalisé sous substance. Et puis un autre projet qui a été réalisé par une machine. Donc en fait, l'être humain drogué d'un côté et puis la machine de l'autre. Et entre les deux, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, le cadre que ça dessine, on peut même faire abstraction des cheminées, d'un désir comme ça, à un moment donné, peut-être d'un élu, de poésie. En regardant juste le cadre là, on se rend compte qu'en fait, les deux choses, qui sont quand même relativement proches, ont été faites sans absolument essayer d'être des choses qui vont avec l'une et l'autre. Et donc, de ce fait, en creux, fabrique dans la ville un troisième tableau, en fait, un tableau creux, comme ça, qui donc, ce type de Post-it City qui m'intéresse beaucoup, et qui est un tableau en couche, en plus, où là, on aperçoit en fait l'archéologie de la ville. C'est-à-dire qu'on aperçoit à la fois que derrière des désirs à plus grande échelle, il y a des plus petits désirs, comme ça. Il y a des choses qui ont été commencées avec un matériau et finies avec un autre. Il y a des choses où on pensait qu'on ne le verrait pas après. Vous voyez, comme les briques, là, je pense que ça a été construit, c'est ce qu'on appelle « on ne le verra pas après ». Et puis finalement, en fait, fatalement, ça n'arrive pas et on le voit. Il n'en voit plus que ça. Et peut-être qu'eux ne le voient pas, en fait, en plus. Et ça reste comme ça. Ça reste un peu suspendu. Et ça, c'est quand même des moments, des choses assez précieuses, quoi. Voilà. Et ça, c'est bon, voilà. Ça, c'est des paysages que Bagnolet offre qui sont vraiment, des... Voilà, un peu de soleil sur les cheminées, voilà. Ah, ben, c'est magnifique. Bah, c'est un tableau même. Ah,
bah, c'est extraordinaire. Mais à Montreuil, il doit y avoir beaucoup de choses de la sorte aussi.
Ah bah plein, il y a plein de... Bon alors, peut-être que vous ne le savez pas, parce que je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point la France a influencé les États-Unis. Ça, c'est un truc, on a l'impression qu'on est à la fois un grand pays en Europe, mais un petit pays dans le monde. En fait, non, déjà, on a les Mercuriales. Et alors, en fait, ça peut paraître idiot de se dire que les Mercuriales sont directement reliées au World Trade Center. En fait, c'est directement le même principe, la même économie visuelle que le World Trade Center. Sauf que, évidemment, le World Trade Center, l'idée au départ était d'un système de double tour, puisque le World Trade Center, c'est le premier geste architectural où on sort en fait de la question du chef-d'œuvre en architecture, c'est-à-dire l'objet qui va être un espèce de geste unique et qui est directement double. Directement, il est déjà dupliqué. Il annonce en fait, le World Trade Center, la question numérique. C'est-à-dire la sortie du chef-d'œuvre et du geste humain, la sortie de l'histoire humaine vers une histoire des algorithmes, c'est-à-dire des machines qui fabriquent des immeubles. Alors, au départ, on avait l'air un peu con avec les Mercuriales, un peu... Maintenant qu'ils se sont fait casser le World Trade Center, voilà. Donc, si vous croisez un Américain, vous pouvez l'emmener ici aussi, dire, voilà... Nous, on a fait moins haut, mais ça n'a pas été cassé. Moi, je pensais à ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette inspiration-là de dire « On peut aussi faire des bâtiments avec des ordinateurs, ça va plus vite, monsieur le maire. » Eh ben oui. Bon, là aussi, de manière paysagère, on retrouve un peu symétriquement à ce qui s'est fait en face une deuxième Post-it City, avec un ensemble de rythmes de signes, comme ça, avec quand même une dimension végétale. On a quand même la nature comme horizon, comme ça. Puis après, on a à peu près tous les matériaux qu'on peut utiliser pour construire des bâtiments, mais tous au même endroit. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer un monde où les matériaux seraient disposés selon les cultures, selon les villes, selon les histoires, là, l'idée, c'est plutôt de rassembler au même endroit, un petit peu comme une exposition universelle, vous voyez, où on fait des pavillons, on voit le monde entier. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas avoir tous les matériaux ensemble. C'est un peu, moi, ce que j'appelle une Post-it City petit garçon. C'est un peu la chambre du petit garçon qui refuse de choisir entre le robot A et le robot B. Il dit, moi, je veux tous les robots. Je veux toutes les techniques de robots, je veux toutes les manières de faire des robots. Et donc là, on retrouve dans ces Post-it City-là tout un ensemble de matériaux qui, la plupart du temps, sont plutôt utilisés séparément. Et là, sont utilisés tous ensemble. C'est un peu une chambre de petits garçons. Et après, il y a des voies. Donc on a une voie qui descend, une voie qui monte et une voie qui tourne. Et là, ça nous fait quelque chose de très composé. C'est une espèce d'avenir avec un sens interdit quand même. Il y a une poubelle aussi qui nous rappelle. Voilà.
Là, on a
le modèle. On a le modèle, en fait, parce que on pense qu'en fait les choix sont faits par des gens qui dirigent seuls. Et en fait, par exemple, si vous prenez un élu, il est marié ou elle est mariée. Et donc, monsieur voulait un bâtiment miroir, madame voulait un chalet. Et les deux ont eu en fait ce qu'ils ont voulu. Un soir, on s'est dit, mais pourquoi pas les deux? Vous avez le... Alors, ce qui est intéressant, voilà, le bâtiment miroir, c'est, voilà, on se regarde dedans, comme ça. Quand on suit l'idée de Jean Baudrillard, voilà, lui, il parle de l'époque capitaliste comme une époque de transparence. Si vous regardez la tour Sony à Berlin, elle est entièrement transparente et on voit les gens en train de travailler. Donc, il y a une idée de surveiller. Mais la problématique, en fait, c'est que les gens, ils sont obsédés par le fait qu'on les surveille. Et en fait, c'est assez fatigant de surveiller les gens, il faut quand même le dire, quoi. Et au bout d'un moment donné, l'alternative à surveiller les gens, c'est de faire des bâtiments en forme de miroir dans lequel l'institution se regarde elle-même. Bon, là évidemment, le moment un peu d'évasion et d'exotisme, hein, il est bref, il est soudain. Dans la ville, c'est pas du tout comme un paysage, c'est pas du tout comme une jungle qu'on va longuement traverser et pénétrer. C'est plutôt la jungle qui surgit et qui nous saute dessus sans crier gare. Donc là, après, souvenir de Martinique, Amazonie lointaine, je vous laisse méditer. On va remonter comme ça. Pareil, bon là, je pense que maintenant vous l'aurez compris, il y a quand même des œuvres d'art contemporain d'exception à Bagnolet, très très beau dispositif, 1%. Là, oui, ils font des très belles choses, et le problème, c'est qu'ils vont se concentrer sur des choses moins intéressantes, alors que déjà tout est là, regardez ça, c'est en place, c'est juste posé, c'est à la fois fragile et c'est à la fois efficace, une vraie évocation comme ça. Quelque part, c'est presque le modèle du bâtiment. On peut se dire que peut-être que l'architecte, pour se repérer, à petite échelle, a fait en bois le bâtiment. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment intéressant. Et juste en face de nous, dans le même axe, il y a une Post-it City de toit. Regardez ça. Un bâtiment construit avec un ordinateur, donc dans cette catégorie-là, qui va probablement avoir des miroirs. On a l'impression que là, il y a un truc qui s'est... À côté de ça, on est plutôt dans une évocation châtelain qui n'a pas les moyens de ses fins, mais tout de même... Et entre les deux, le fameux truc, on ne le verra pas après. Et en fait, il est encadré, on ne voit plus que ça. Série de toits, comme ça, avec des fenêtres un peu improbables. On a vraiment, voilà, une... Ça, c'est un cadeau, des comme ça, il n'y en a pas souvent, hein, je veux dire. Ah, mais c'est joli, ça. Très joli. On va remonter par ici, si on... C'est ici. Il n'y a plus de trottoir. Bon, là, il y a aussi une très belle pièce, là, très belle pièce qui a acquis récemment la ville, un module comme ça, répétitif. Alors, vous voyez, des petites formes. Tout simplement, c'est rien, mais ce petit bloc-là, coincé entre les deux immeubles, est vraiment, voilà, pour moi, une pièce que je classerais quand même dans les pièces importantes. On est sur presque rien, répétition de lignes, on ferme comme ça. C'est, voilà, ça, c'est quand même vraiment une production, moi, qui me touche beaucoup. Un peu de végétation, mais pas trop, quand même. On n'est pas dans la jungle qui surgit. Là, sur le mur, on pressent un désir de passer à autre chose, vous voyez. Là, on sent que quelque chose peut vraiment basculer complètement dans autre chose. Mais entre les deux, dans cette partie qui n'est pas décidée, qui a été donc dessinée par un usage, mésusage, arrêt d'usage, au bout d'un moment donné, les endroits de la ville qui ont été usés finissent par donner quelque chose d'assez particulier qui est souvent assez court. Hein. Devant, vous verrez, il y a une espèce de petite pelouse aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, parce que ça se fait de plus en plus en ville, il y a des pelouses, hein, et même dans le cœur des îlots maintenant HLM ou HBM, il y a des pelouses qui sont vraiment plantées et où c'est marqué « interdit de marcher ». Donc, c'est de la pelouse à contempler. Donc, non, mais ça, il faudrait aussi le dire aux gens... Regardez la pelouse, quoi. Parce que leur dire ne pas marcher, c'est assez négatif quand même. J'avais un truc, mais regardez-la. Voilà, il faut être très positif. Regardez cette pelouse. Et là, je pense que les gens, ils prendraient du temps. Et ils seraient heureux de la voir. Le soir, quand ils rentrent chez eux, avant de monter, ils se poseraient un instant, ils regarderaient la pelouse. Tandis que là, c'est marqué ne pas marcher, ça leur envoie quand même un truc. Voilà, c'est bon, c'est un détail, mais. Bonjour.
C'est une visite culturelle du quartier ou...
Ah, moi, je sais pas. Oui, c'est visite culturelle du quartier, on peut dire. On visite les post-it cities, c'est-à-dire les villes spontanées. Là, ici, c'est une ancienne fabrique. Ouais. Fabrique.
Atelier de mécanique.
Ouais. Qui a toujours été un atelier mécanique.
Ouais.
Qui est coincé avec une maison juste à côté. C'est la maison du patron.
C'était,
hein, c'est ça. À Bagnolet comme au Lila, le principe de urbanistique était vraiment de construire le lieu de travail collé père et fils. On peut jeter un coup d'œil, oui. Avec plaisir.
Vous allez voir un bel atelier d'époque.
Ah, c'est encore un atelier de réparation.
On ne fait plus de machines à prix.
Et vous réparez des motos. C'était quoi à l'origine ?
Mécanique des machines à imprimer.
Mécanique des machines à imprimer, ouais.
Allez-y, hein, faites le tour.
On peut aller voir. Il répare les motos. Ouais, c'est un très bel atelier. Ah, c'est carrément un très bel atelier. Hein. Ouais, il répare des motos anciennes. Donc j'avais prévu qu'on fasse une balade en sidecar, mais on est un peu trop nombreux. Donc bon, bah, tant pis, hein, on pensait prendre 4 sidecars, mais non, c'était il faut. Ça, c'est un exemple, en tout cas, de continuité de l'activité, parce que ces communes-là, en tout cas à l'échelle Bagnolet et des Lilas, c'est des communes où il n'y a pas de grandes fabriques, mais beaucoup de fabriques qui étaient des entreprises périphices, donc de plus petite taille que ce qu'il y a dans les grandes villes de Seine-Saint-Denis, mais qui avaient voilà, un cachet assez particulier. C'est rare de voir des activités qui ont gardé cette forme-là. Ils ne sont pas devenus des lofts avec des gens super sympas dedans. Et donc c'est cool quand même. Il n'y a pas de port de babouche obligatoire, donc c'est quand même vraiment sympa. On va continuer peut-être, parce que du coup, il ne faut pas que je vous tarde trop. Moi, ça va. Voilà, on a pris un peu de retard sur notre balade. On va peut-être aller un tout petit peu loin que prévu. On va aller un tout petit peu plus loin que ça. Mais là, là c'est la pièce maîtresse de la balade. Hein. C'est la mairie de Bagnolet. Alors, voilà, si vous voulez, c'est une pièce assez psychanalytique, si vous voulez. Parce que devant ça, quand on en arrive, on se demande... On se demande ce qu'a la personne dans la tête. C'est-à-dire que on se dit, voilà. C'est un peu comme si vous voulez, sur le divan, il y a quelqu'un qui, au départ, vous parle de sa maison de l'enfance. Il dit, voilà, quand j'étais petit, tout ça. Alors, au bout de plusieurs séances, on a parlé de l'odeur du père, du parfum, de la mère, des fauteuils quand on était enfant, le dos qui colle quand on est torse nu dans la maison de vacances avec la grand-mère sur le canapé en sky. Mais une fois qu'on a passé ça, après, on se projette vers le futur. Et du coup... C'est un cerveau, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de l'origine, du début, de ce qu'on a... Quand on veut être maire au début, en tout cas au XXe siècle, il y a quelque chose qui a à voir avec le premier bâtiment. Il y a quelque chose qui incarne à la fois la maison de la grand-mère, des parents qui habitent dans la région de Laval, ou au Mans, ou dans un endroit en fait en France, où là on sait qu'on est vraiment en France, à Dijon ou à Tours, un endroit où on ne peut pas se tromper, on n'est pas près des frontières, on est vraiment... dans la culture française. Et puis après, alors on se dit quoi? On se dit, bon, il y a l'influence de la science-fiction sur notre perception du futur. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement influencé par les films de science-fiction. On sait que les studios américains ont beaucoup travaillé en collaboration avec l'État américain et l'armée pour nous inscrire dans ce qu'on appelle la futurologie, dirait Isabelle Stengers, c'est-à-dire dans le fait que le futur, c'est simplement le présent un peu modifié. C'est-à-dire que c'est un ordre de choses qui reste. C'est-à-dire que le futur, il n'y aura pas plus d'égalité homme-femme, il n'y aura pas plus d'écologie, il y aura tout comme aujourd'hui et un peu aggravé quand même. Voyez, c'est un peu... Moi, j'appelle ça, en fait, le concept Elysium. Vous voyez ce film Elysium? C'est un film, en fait, sur le Brésil, mais on dit que c'est le futur. C'est-à-dire que les Blancs sont dans les hauteurs, isolés dans leur villa, et puis tous les gens qui ont un accent un peu d'Amérique latine, comme ça, ils sont à la crasse et ils sont tués par des robots. Donc tu dis, bon, ça, c'est pas le futur, quoi. Donc là, par contre, quelqu'un se dit,
Mais moi, je peux vous interrompre.
Oui, je vous écoute.
Juste avis aux gens là, qui ont des véhicules sur le parking, là, s'ils peuvent les récupérer maintenant, parce qu'on va fermer le parking.
Ah. Ah non, on est en train de marcher, on fait une visite.
Il n'y a aucune personne qui... Ah, vous n'êtes pas de la
médiathèque? Ah non, pas du tout, pas du tout.
Je pensais que vous étiez de la médiathèque, c'est pour ça que...
Pas de soucis, pas de soucis.
D'accord, excusez-moi.
Je vous en prie. Donc je vous dis, voilà, le problème, ça troupé, c'est les rapports avec les forces de l'ordre, ça je vous l'avais expliqué, je dois avoir un truc à raconter. Donc il faut toujours, en général, préparer un truc à raconter avant, comme ça, après, vous êtes tranquille. Donc, effectivement, après, se pose la question du futur. Et alors là, dans le futur, il y a, encore une fois... À un moment donné, quand les choses sont compliquées, un conseiller dit « Maintenant, il faut choisir, monsieur le maire. » Et il lui dit de manière un peu tendue, il dit « Monsieur le maire, il faut choisir, maintenant, il faut faire un choix. » Il rentre chez lui, comme ça. Alors, c'est pas le maire d'ici, hein, c'est le maire d'où on veut. Puis ils discutent, et puis son fils qui est grand, qui fait une classe prépa en archi, lui dit « Mais non, le futur, c'est plus la transparence. » le futur, c'est plutôt le système coercitif. Il faut qu'il y ait un côté comme ça, assez angoissant, ça va plaire aux jeunes. Il y a un côté ultra nihiliste, comme ça, ça va être... Donc, il dit un bout nihiliste et puis un bout transparent. Mais il dit, sa femme, il faut de la rondeur. Parce que la femme, il dit, il faut de la rondeur, parce qu'ils ne vont pas se sentir accueillis, les gens. Donc, OK, l'arbitrage est fait dans la famille, un peu de nihilisme, un sentiment de prison, de la rondeur et de la transparence. Et de l'histoire. Et la maison de l'enfance. Et là, quand, bon, sur le plan, ça passe encore, parce qu'on ne se rend pas tout à fait compte. Ouais, on se dit, bon, ouais, peut-être que la rondeur est en trop. Hein, mais voilà, après, du coup, on se dit, bon, ouais, mais bon, avec ce qui se passe en ce moment, un poste de surveillance, le côté un peu mirador est finalement bien accepté par la population, qui comprennent les enjeux et ce qui a été vu. Et alors, le côté pour les jeunes, l'avenir le dira. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est... Alors, sur l'autre face, on va pouvoir voir, en tout cas, le choix qui a été fait, c'est-à-dire que c'est l'ado qui dit, en fait, non, on ne va pas mettre de rideau. Renzo Piano, l'architecte, dit une chose. Il a construit une cité à rue de Meaux, dans le 19e, et il dit, le problème avec l'architecture, c'est que c'est parfait quand tu finis, et dès que le premier habitant vient mettre ses rideaux, t'es foutu. Parce qu'il va mettre des rideaux qui ne vont pas avec le bâtiment. Mais lui, il avoue. Et là, l'architecte, lui qui se dit, bon, je comprends bien votre envie un peu de faire comme ça, côté un peu carcéral, un petit côté un peu brésilien SF, un peu Blade Runner, mais voilà, on aurait visité. Et alors, on va pas mettre de rideaux. Comme ça, l'architecte, il tient son truc, il dit, moi, je ne mets pas de rideaux, je suis radical. Mais on va mettre des grillages aux fenêtres. Donc, voilà. Donc, c'est beau. C'est un choix délibéré. Alors, pour moi, là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une pratique qui est assez proche de ça, qui est en fait le saut à l'élastique. Vous savez, dans les goulags, ou au moins chez les Khmers rouges, quand on voulait torturer des gens, on les poussait dans le vide en les accrochant par les pieds, quoi. Mais que des gens le fassent volontairement, ça, c'est un truc, c'est une étape... Voilà, et j'ai pensé aussi à ça. Je me suis dit, bon, t'es en prison, il y a des barreaux, t'as fait un truc mal, tu payes ta dette, tout ça. Bon, t'es pas en prison et tu mets des barreaux toi-même. Là, c'est un truc qui est bon. C'est une chose que moi, je... Mais en tout cas, effectivement, ça crée une espèce d'effet. Et alors après, il y a évidemment la métaphore de la toile d'araignée. La toile d'araignée, le web, hein, le network. Donc là, on peut aussi dire, le bâtiment est hyper connecté, et voilà, ça c'est un peu l'hypothèse, à mon avis, de l'architecte pour le vendre. Il faut savoir en fait que la problématique de l'architecture, et ça c'est très sérieux, c'est qu'en fait c'est un truc où on gagne très mal sa vie. Et en fait, la principale marge qu'on trouve pour gagner sa vie d'architecture sont les matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand vous allez designer en tant qu'architecte un parc paysager, en fait, c'est le nom qu'on donne à un parc panoptique, ou si vous préférez, à un parc où on peut voir tout le monde d'un seul point. C'est ce qu'on a vendu aux gens comme le plus efficace pour pouvoir boire des coups en laissant les gamins courir. On les voit de partout, mais effectivement, on voit tout, de partout. Donc, ça s'appelle un parc paysager. Le paysage est venu entrer dans cette expression, on ne sait pas trop comment. Donc, le parc paysager est un parc tout à fait comme ça, horizontal. Et le problème d'un parc paysager pour un architecte, c'est qu'en fait, on ne gagne rien à faire un parc paysager. Et donc, la seule issue qu'on a, c'est de vendre à l'institution, à la municipalité, à qui on veut, des grilles. Et en fait, sur un projet de parc paysager, les seules marges de celui qui va produire le parc paysager sont les grilles. Donc, on va se retrouver avec des parcs, et donc le producteur de parcs principaux, de grilles principaux en France s'appelle Decaux, et on le connaît beaucoup pour les panneaux, mais beaucoup moins pour les grilles. Le marché des grilles est un marché évidemment en expansion, et vous allez voir dans plusieurs parcs qui sont ici, mais aussi à Paris 20e, sur la Dalle, aux Fougères, etc., des parcs qui n'ont pas de forme, qui sont des espèces de parcs comme ça posés. Et puis après, des séries de grilles, mais vraiment assez sophistiquées, et beaucoup. Vous dites, mais là, ils ont mis deux niveaux de grilles, plus là, qui quand même ne se présentent pas comme des objets coercitifs qui veulent montrer qu'on... Non, qui sont une espèce de verticalité qu'on va mettre dans l'horizon. C'est-à-dire qu'on fait un parc plat, et puis on met des grilles qui accroche un peu l'œil, et c'est ça, je crois, l'idée paysager. Parce qu'au départ, moi, le parc paysager, qui est un terrain... C'est comme si on disait un stade de foot paysager. Vous voyez, bon, ça ne peut pas être paysager, un stade de foot. Et, tu vois, et même si tu mets des grilles, là, il y a le côté, l'imaginaire de la forêt noire, le petit pousset. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. On est plus dans la question comme ça de surveiller. On est dans la question de voir au loin arriver la menace, le loup, le Gévaudan, l'imaginaire fonctionne. Donc on va juste finir par voir l'autre face, c'est quand même assez belle, comme ça, pour aussi essayer d'imaginer les gens qui y travaillent. Et voilà, on va finir par ce petit bout-là.
Moi, je peux dire quelque chose.
Vous écoutez.
A été mis en vente l'escalier, hein, sur Internet.
Ouais, a été en vente
la passerelle.
Entre les deux, la mairie, l'ancienne, ça a été mis en vente.
Mais ça n'a pas marché.
La passerelle a été mise en vente.
Je sais que la passerelle n'est pas connectée à l'autre bâtiment. Oui.
Voilà,
et aux enchères. Hein, c'est sûr.
Attendez, on va venir la voir là. Attendez.
Il y a plein d'histoires.
Attendez, parce que là, c'est trop beau. Là, vous nous faites un cadeau. Là, c'est pour finir sur la cerise sur le gâteau.
La passerelle a été faite pour arriver dans la salle de mariage. On arrive à demi-palier. Donc, en fait, quand on arrive à demi-palier, il faut se faire la courte échelle pour se marier.
Ça, c'est très, très bon.
Elle est assez intéressante. On voit le mélange de l'histoire.
Ça, ah bah ouais, complètement. Ah bah, et puis, il y a le moment où ça échoue. Il manque une marche pour arriver au...
La marche est haute. Elle fait plus de 1,50 m. La moitié n'est plus.
Non, mais c'est pas une blague, non, c'est extraordinaire.
C'est la science des bagnoles. En fait, on peut rajouter.
Voilà, alors ça, c'est. Alors ça, c'est une espèce de Post-it City d'un genre nouveau. C'est-à-dire que c'est à la fois tout neuf, c'est à la fois désiré et à la fois complètement inutile. Puisqu'effectivement, là, donc, ce que j'apprends, c'est qu'en fait, la passerelle arrive à mi-palier de l'ancien bâtiment. Et donc, ne connecte pas, en fait, en réalité, les deux bâtiments. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un niveau où... C'est donc... Bon, là, ce sont les mystères.
Mais c'est pour éviter.
Et donc, voilà, après... Donc, la passerelle devient un objet autonome en tant que tel. Le premier usage de la passerelle donc, est épuisé dès le début. On arrive à mi-palier, donc on ne peut pas traverser. Arrive donc un deuxième usage, qui est un peu le sujet de notre conversation aujourd'hui, c'est-à-dire une possibilité d'avoir un espace, qui a été mis en vente sur Internet aussi, qui peut être aussi privatisé, hein. Voilà, vos fêtes, vos...
Avec les petits ronds, là, pour fumer.
Voilà, non. Donc, du coup, effectivement, l'idée dont je parlais de la connexion passé-présent-futur, là, il y a un espèce d'hyper-présent au milieu, là, qui bloque, finalement, parce que, finalement, la marche vers le futur, elle est plus, comme vous disiez, elle est plus haute que prévu. Hein. C'est que, bon, c'est...
Il y a préemption du centre Pompidou.
Ah, ben voilà, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit, je crois, de fumer au centre, et ils vont venir fumer ici. Mais vous savez que c'est très proche de ce qu'on discute aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense qu'après, effectivement, une fois que la question de la fonction, qui est quand même une question un peu pénible, est évacué, on rentre dans l'art. C'est-à-dire que là, du coup, les gens, quand ils voient des œuvres d'art contemporaines, ils disent « mais ça sert à quoi, ça ?» Ben, ça sert à rien, c'est justement pour ça que c'est intéressant.
Mais là, on rentre dans l'art, mais on rentre pas dans la mairie.
Non, plus dans la mairie. Là, on reste... Mais du coup, voilà, on reste dans l'art, ça devient en tant que... Mais moi, je pense que, franchement, ce type de choses-là, bon, qui est quand même complètement improbable comme erreur, vous pensez pas qu'ils ont fait ça, pour que ça devienne quelque chose de...
C'est pas une erreur.
C'est fait exprès.
Pour que le 1er octobre, on puisse faire une conférence là-dessus.
Vous avez été sympa, là, franchement.
C'est la phase 2 du raisonnement sur les grilles. C'est une très grosse grille d'un point de vue des honoraires de l'architecte.
Bah, là, de toute façon, c'est aussi c'est une réalité après qu'il faut comprendre. Hein, c'est que c'est effectivement les grilles comme les poteaux, comme tous les équipements. Voilà, et que comme tous les équipements comme ça, si vous avez des lampadaires qui sont design, etc. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'ils ont refait en fait l'opéra, la philharmonique, vous savez qu'en fait, les assises dans le philharmonique, si on les prend toutes, elles coûtent presque aussi cher que le bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de l'architecture, c'est que ce n'est pas un truc si cher que ça à produire, mais par contre, les équipements... Par exemple, si vous prenez qu'une chaise philharmonique, ça coûte 2 500 €, ben là, quand vous en mettez partout, et le problème de base, c'est de pouvoir avoir ce marché-là. L'architecte, s'il ne fait que le bâtiment, il est assez mal. Moi, j'ai travaillé, il fut un temps, avec Villemotte, qui a lancé la grande mode de suréquiper les bâtiments, de faire des lampes, des bancs, des trucs. Parce que là, c'est un truc où tu gagnes beaucoup d'argent, alors que la facture architecturale n'est pas très chère. Donc là, c'est vrai qu'on a un cadeau qui est un post-it... contemporain, là, qui, quelque part, qui est assumé en tant que tel. On a l'impression qu'en tout cas, là, en plus, là, le passé va moisir, en fait, connecté à ça. Alors, il y a comme ça une espèce de vitalité qui est pompée, parce que la mairie elle-même moisit un peu comme ça. Alors, non, il y a...
Il y a une légère fuite, là. Alors, je ne sais pas, vous l'avez peut-être dit avant, mais ça symbolise les trois pêches, puisque c'est les murs à pêche, hein, Bagnolet, Montreuil.
C'est la rondeur.
C'est la rondeur.
Il fallait un peu de rondeur.
Et alors, le parallélisme des colonnes, c'est pas un accident.
Oui, mais ça, c'est aussi parce que. Ouais, mais ça, c'est aussi parce que. Voilà, il faut aussi un peu faire avec son temps, hein, je veux dire.
C'est banal, ouais.
Voilà, c'est ça, il faut. Mais c'est vrai que, ah oui, du coup, là, il y a des pêches en béton. Après, c'est vrai que ça va assez vite. Hein, dire que ça s'arrondit, ça pourrait être les trois grâces, ou la liberté, l'égalité et la fraternité. Enchasser l'une dans l'autre.
De l'autre côté, moi, je pourrais peut-être pas rester, mais normalement, il y a de l'armement qui est prévu. Ouais.
L'armement.
Oui, l'armement, des lance-missiles.
En tout cas, on va faire l'autre face, on va finir par ça, parce qu'elle est pas mal.
La loge des mers, en fait, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a toute la vue sur la...
Ah, il va sur toute la ville.
Bagnolet by night.
Ça, c'est... Le... Non, it doesn't connect. Incredible. On va finir par la très belle vue en se mettant de l'autre côté sur cette façade-là. On peut observer une petite jolie petit motif de toit aussi ici de Post-it City. C'est toujours pareil, lorsqu'on construit des choses nouvelles, on va peut-être se mettre de l'autre côté. Voilà, sur cette face-là, en fait, il y a donc l'idée de se retrouver avec ce treillis qui est donc le réseau, la toile d'araignée, le camouflage, l'état d'urgence, les possibilités d'avoir des petites cabines aussi où on met des soldats. Toujours est-il que voilà, là, il y a effectivement une face qui est offerte comme ça à la ville, qui est la face du futur, avec un mur aveugle pour le voisinage. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, encore une fois, lorsqu'on part dans des volontés d'avoir des signatures architecturales, le risque, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de l'environnement proche et qu'elles fassent un geste qui est censé être une espèce d'œuvre, geste qui finalement s'impose au regard du voisinage et crée une drôle d'impression pour un objet qui exprime le futur et une espèce d'accueil. C'est la mairie de la ville, donc c'est l'endroit par lequel on accueille comme ça. Et on est accueilli dans quelque chose qui évoque un futur incertain.
La sortie de secours, elle est bien aussi.
Oui, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que je pense qu'arrivé à un moment donné, où quand les choses ne vont plus bien du tout, je pense que l'architecte, il se dit on y va. Je pense que c'est un petit peu comme, voilà, quand on se trompe, après, on se dit il y a un moyen d'en sortir par le haut, c'est qu'on rigole bien, on y va, quoi. Tu vois, c'est pas la peine de vouloir tout résoudre. Les gens, ils sauteront, quoi. Tu vois, d'ailleurs, il y a le gars qui travaille là, a mis son véhicule en dessous. Donc, Non, je pense que c'est utilisé à force. Il y a un côté un peu sauf qui peut, c'est vrai. Voilà, il y a un côté sauf qui peut, il y a un côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que je dois continuer ma soirée ailleurs. Mais merci pour votre attention. Dernière vue d'ici, parce que Bagnolet, c'est vraiment beau pour Bagnolet, comme les lilas sont construits donc sur un espace qui est comme une petite montagne. Vous sentez que l'air là est déjà beaucoup plus frais et qu'on se heurte au quotidien à l'esprit un peu montagnard des Bagnoletais et des Lilasiens. L'avantage, c'est qu'on a aussi des assez belles vues, comme vous voyez. D'un côté, un avenir plus, avec des belles cheminées à gouttes, et de l'autre côté, voilà, des possibilités spirituelles qui s'offrent à nous. Je vous laisse méditer. À bientôt.
Merci. À bientôt. Merci. Merci.
Oui, voilà. Pour ceux qui s'intéressent, ce soir, je présente un grand récit de ma grande histoire de la banlieue à 20h30 à l'espace Chiasma. Voilà. À plus tard, peut-être.